Les Cascodeurs Podcast, épisode 274. Interview sur le darwinisme numérique avec Didier Girard, partie 2. Enregistré le 17 février 2022.
C'est la deuxième partie de cette interview. Je vous encourage à écouter la première partie qui se focalisait sur l'explication de ce qu'est le darwinisme numérique, l'impact de l'abondance de la ressource numérique en fait. La partie 1 se concentrait sur l'impact sur les nations et qu'est-ce que ça veut dire une souveraineté en rapport avec ses ressources. C'est un sujet dont l'actualité nous a rattrapé puisque à l'époque où on a enregistré cette interview, en fait, la Russie n'avait pas encore envahi l'Ukraine. On avait un petit peu les prémices et du coup, ça résonne particulièrement aujourd'hui. Voilà, et en tout cas, dans cette partie 2, on va discuter de l'impact sur une entreprise de cette abondance de la ressource numérique et quelles sont les sociétés qui ont embrassé cette approche et qui ont eu du succès et en fait se comparer un petit peu en termes de modèle à ces approches-là. Et en fait, en filigrane, on va beaucoup discuter de l'impact sur l'individu aussi au fur et à mesure de cette partie 2. Voilà, et il nous restera après la partie 3. Bonne écoute.
Donc là, on est à 43 minutes. Est-ce qu'on zoome, enfin, est-ce qu'on passe sur le champ entreprise, du coup, quelque chose qui pourrait être un peu plus pratique pour les gens. Donc là, on a parlé nation. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise de vivre dans cette ère où rien n'est acquis pour assez longtemps, en fait?
Ouais. Et déjà, il y a un phénomène qui est en train d'arriver. On parle de... Dans l'ère du numérique, en fait, il y a une nouvelle génération d'entreprises qui est en train d'apparaître et elles sont associées d'ailleurs à un vocabulaire. On parle de fintech, de retail tech, d'edutech, de medtech, de legal tech, etc. C'est toutes ces entreprises qui ont... Je vous vois sourire.
J'ai pensé à une blague pour Guillaume, mais il l'a pas fait.
Non, c'était quoi ta blague?
Non, mais j'en avais même pas vu. Je cherchais quelque chose qui rimait avec tech, mais j'ai pas. Les tables en tech? Non.
C'était autre chose. Les table tech, c'est ça?
Les table tech.
Ouais. Et donc, du coup, c'est cette nouvelle génération d'entreprises qui ont pris pour principe que le business c'est de la technologie et que la technologie c'est le business. C'est un peu ça en fait. Et donc c'est une ère qui est assez transformative, on le disait, enfin un peu tous les secteurs de l'économie sont touchés. Et donc la question qui est en train d'arriver, c'est ce que j'avais exposé, c'est que le numérique est une ressource et que cette ressource elle est abondante et abordable, en tout cas par rapport à ce qu'il y avait il y a 15 ans, faut toujours en mettre en parallèle par rapport à l'histoire. Et donc, comment est-ce que les entreprises doivent prendre en compte cette nouvelle ressource pour se développer et s'adapter?
Et tu vois, j'ai un peu de mal à faire le lien entre cette ressource devient abondante et abordable, et du coup, on est dans un mouvement d'accélération. Est-ce que c'est parce que la ressource étant abondante et abordable, il y a des choses qu'on peut faire avec, qu'on pouvait pas faire avant, qui du coup ouvrent des champs, qui amènent cette accélération? Parce que techniquement, il n'y a pas besoin de numérique pour faire une accélération. Il peut y avoir l'accélération, elle peut venir pas ex nihilo, mais...
Ce sujet, il est important, c'est-à-dire que l'arrivée de l'Internet n'était pas suffisant. Pourquoi? Parce que tu prends au début des années 2000, une start-up a levé de l'argent. Il y avait déjà 50% de l'argent qu'elle avait levé qui lui servait à acheter des machines. C'était le succès de Sun. Et donc, quelque part, tu disais, bon, allez, j'ai levé 1 million, et ben, je prends 500 000 et j'achète ma machine pour, si j'ai du succès, il faut que je puisse scaler. Et c'est ce qui a fait le succès de ces boîtes-là. À un moment donné, c'est ce qui a fait le succès de Sun, de ces fameux serveurs. Les gens en achetaient, ils en avaient pas besoin. Ouais. Et donc, il y avait aussi, d'ailleurs, tout un marché de revente parce que les gens avaient acheté des trucs, les boîtes faisaient faillite, etc. Et donc là, t'as plus ce problème-là. C'est-à-dire que tu as une idée, quelque part, tu t'es pas en train de te dire, OK, comment je vais financer le scale?
Et ça, ce que ça permet, cette réduction des coûts, c'est plutôt que, au lieu que ça soit un outil d'accélération pour des gens suffisamment gros, ça devient un outil d'accélération pour des boîtes, y compris jusqu'à l'individu qui dit, moi, j'ai une idée, je vais, donc ça ouvre à la capacité à plein de gens de transformer leurs idées en exécution. C'est Est-ce que c'est ça, du coup, qui amène l'accélération ou pas?
Bah, en tout cas, t'as plein de gens, si tu veux, avant, c'est, je sais pas si ça amène l'accélération, mais ça augmente les expérimentations.
Oui.
Et du coup, de fait, ben, plus tu expérimentes, plus tu as des chances de succès, quelque part, on pourrait dire. Et donc, du coup, ben, c'était un peu paralysé là où il n'y avait que des entités économiques qui étaient capables d'expérimenter. Maintenant, plein d'individus sont capables d'expérimenter. Et tu as une idée, et quelque part, le soir, tu peux coder pour t'amuser un avertisseur de radar. Et tu sais que le run, ça va te coûter zéro.
Ouais.
Tu vois, et donc quelque part, bah, si t'avais pas la puissance.
Ce que tu sais pas, c'est que d'aller discuter avec le ministère.
Et après, t'as le légal qui te rattrape. En fait, non. Voilà, mais peu importe. Mais en tout cas, tu peux expérimenter, t'as ton idée, tu y vas, et tu peux te dire, bah, si quelque part, bah, tu peux commencer à imaginer des choses que tu, avant, c'était impossible d'imaginer ça. Et donc, t'as plein de gens qui vont expérimenter des idées, des nouvelles manières de faire, des nouvelles choses. Et puis si ça marche, bah du coup il y a bien sûr il faut se dire, et ça c'est un des axes peut-être qu'on pourra développer, c'est ça amène dans le numérique, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, c'est que avec l'arrivée du numérique, c'est que la ressource numérique n'est plus un centre de coût, c'est un centre de création de valeur. C'est ça qui est très important, et donc c'est pour ça que les entreprises sont en train de mettre, alors peut-être je vais trop vite passe peut-être du côté coquelade, mais tout le mouvement FinOps, c'est ça, c'est de dire, quand j'investis de l'argent, la première chose que je vais investir dans un service, ce service, il va consommer de la ressource numérique, est-ce qu'il va créer suffisamment de valeur pour me rembourser le coût associé? Et donc, c'est là où il y a un changement de mindset, c'est de dire, je vais créer des services en prenant en compte directement le coût du run, et je vérifie que ce coût de run est inférieur à la valeur que ça va me créer. Et donc typiquement, quand je faisais à bon entendeur, c'était ça. C'est moi, je voulais faire un service qui était gratuit et qui me coûtait pas plus de un café par jour. Bon, c'était ça ma ressource en termes pécuniaires, c'était ça. Et donc j'avais plein d'utilisateurs qui me disaient, ouais Didier, ce serait bien de coder ça. Et c'est vrai que j'aurais pu rajouter plein de super fonctions, mais par rapport à l'équation économique que j'avais, qui dit ça doit pas me coûter plus de un café, ben je savais que ce service-là, ça allait me demander plein de puissance de calcul et que du coup, je sortais de mon équation économique. Donc, était vraiment râler pas crête. Mais ça amène cette notion de dire, voilà, le numérique, c'est une ressource, il faut qu'elle crée de la valeur. Et est-ce que mon équation est bien...
Après, il y a quand même aussi un côté opportuniste. Quand je pense à la banque en ligne, enfin, les entreprises veulent des coûts zéro abaissés de partout. Si on regarde, c'est pas forcément une réflexion sur la disponibilité des ressources informatiques, réseaux, etc. à coût zéro, mais c'était aussi pour baisser les coûts de l'entreprise en elle-même. Que bah, pourquoi la banque classique aujourd'hui coûte cher, bah, c'est parce qu'il y a toutes les agences, tous les gens dans les agences, etc. Donc il y a forcément des coûts plus élevés. Ah bah comment on pourrait faire pour réduire ces coûts? Ah bah tiens, si on fait les trucs en ligne, c'est assez opportuniste des fois, sans forcément à penser à la transformation, d'aller dans cette direction-là et de tirer parti de la ressource informatique, juste pour finalement attirer plus de clients en leur faisant payer moins cher, parce que ça coûte moins.
C'est un des axes, mais moi, ce qui me plaît dans le côté en ligne, c'est que le soir, si j'ai envie de faire un mouvement bancaire, j'ai pas besoin d'aller au guichet. Et ouais. Quelque part, moi, ce qui m'intéresse dans cette numérisation de l'écosystème, c'est que les actes métiers que j'ai besoin de faire, je choisis le moment où j'ai envie de les faire.
Ouais.
Alors qu'avant, j'étais dépendant d'horaires d'ouverture. Mm-hmm. Et donc, quelque part, c'est vrai que là, le fait de dire on a rendu immatériel un certain nombre de choses, ça permet de simplifier plein de choses.
Mais on en revient à, nous, dans le numérique, c'est immatériel. Typiquement, les banques, ils ont des agences en dur, physiquement déployées, etc. Ça coûte très très cher. Qu'avant le Covid, j'avais eu un entretien avec mon banquier, et on parlait de mille et une choses, et à la fin, il était super fier, il m'a fait remplir un questionnaire en me disant, écoutez, on innove, est-ce que vous aimeriez que notre banque soit ouverte plutôt le lundi, parce qu'il était fermé, ou plutôt le samedi après-midi. Et je voyais les choix, je disais, mais en fait, moi, je voudrais juste pas venir vous voir, je voudrais juste faire le rendez-vous sur une webcam. C'était avant le Covid, et le mec, il a dit, ah bon, genre, il avait jamais, en fait, entendu ça. Et maintenant, grâce au Covid, je pense que là, on a gagné 10 ans. Hein.
Alors, du coup, une entreprise qui veut vivre dans cet univers-là, donc maintenant, il y a des entreprises qui pensent que la tech est une... Enfin, c'est, en fait, c'est, enfin, il y a des gens qui disent c'est une boîte de tech qui fait du la finance, une boîte de tech qui fait du etc. Donc ça, c'est ton point sur la façon dont les entreprises doivent se repenser, je pense, c'est ça. Ok. Et du coup, comment elles font?
Donc, en fait, c'est tout le sujet qui arrive derrière, c'est de définir qu'est-ce que c'est qu'une tech compagnie, en fait, quelqu'un. Et donc, c'est quand on dit tech compagnie, pour moi, c'est pas qu'un sujet technologique. C'est-à-dire qu'on le voit à travers le sujet technologique, parce que quand on dit fintech, il y a tech. Mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi un mindset, c'est une culture d'entreprise, un modèle organisationnel. Et si tu travailles que sur le côté technologique, bah, ça va pas marcher. Typiquement, tu peux pas dire, je me lance, je vais faire je sais pas quoi, moi, je veux faire un système en ligne, mais je continue à penser de manière traditionnelle et à fonctionner de manière traditionnelle. Peut-être que ça marchera, mais j'ai quand même des doutes sur le long terme que ça fonctionne, parce que toutes ces entreprises, et à nouveau, c'est, moi j'aime bien, je pense pas que ce système ait été inventé, c'est simplement, on prend 20 ans plus tard, et on regarde quelles sont les boîtes qui ont survécu à cette économie numérique dans les différents métiers, tu regardes, ben, finalement, c'est quoi leur dénominateur commun? Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un pattern qui apparaît dans toutes ces différentes boîtes qui ont résisté dans cet écosystème qui est né avec beaucoup de boîtes, il y avait beaucoup d'entreprises qui se lançaient, finalement il y en a quelques-unes qui ont résisté. Et donc si on regarde un petit peu, moi j'ai essayé de voir qu'est-ce qui faisait que des entreprises avaient résisté, c'est pas que moi, hein, mais il y a
plein de... Silicon Valley.
Pardon ?
Silicon Valley.
Silicon Valley, voilà. Et donc ce qu'on voit, c'est leur capacité d'adaptation. Donc et je vois ça sur quatre axes, c'est la capacité... Le mouvement, on va pouvoir détailler ce que ça veut dire. Il y a le côté vitesse, il faut aller vite. Il y a la notion d'ambition. Et puis, il y a la notion d'efficacité. Et je pense que c'est... Il y a peut-être d'autres axes, mais en tout cas, c'est ces quatre axes qu'on peut noter. Donc, le mouvement, c'est... et ça, c'est quelque chose que j'essaye de... que je dis régulièrement chez Sphere. C'est chacun des choix que l'on fait doit nous rendre compatibles avec le futur et pas avec le passé. C'est-à-dire que quand tu décides, quand tu prends une décision, tu dis, est-ce que ça me rend compatible avec le futur et pas simplement compatible avec le passé. Et cette phrase-là, je l'ai pris, je sais pas si vous vous souvenez, enfin, on est tous des grands-pères du web, mais souvent, quand on développait historiquement une application web, on vérifiait qu'elle était compatible avec les navigateurs du passé.
Oui,
est-ce que t'es compatible avec IE4, IE3, Netscape, je sais pas quoi. Et à un moment donné, il y a une entreprise qui a sorti un navigateur qui tirait toutes les 7 semaines. Et donc la question de savoir si c'était compatible avec les navigateurs du passé, ben elle devenait un peu obsolète.
Qui s'auto-mettait à jour.
Ouais. Et du coup, ce qui était important, c'est est-ce que ton navigateur, enfin ton application, elle va être compatible avec les futures versions qui sont en train d'arriver structurellement, en fait. Et là, il y a ce changement de manière d'imaginer qu'est-ce que c'est qu'une application web, elle doit être compatible avec les futures versions.
Et alors juste parce que je pense qu'on va juste mettre une épingle, parce qu'on en parlera peut-être quand on arrivera à l'individu si on a le temps d'y arriver, mais pour moi ça montre un changement, c'est-à-dire on prépare pour les gens qui sont dans ce mouvement-là et on va laisser derrière quand même des gens qui sont encore sur IE5 parce qu'ils sont encore sur leur Windows 95 et qu'ils n'ont pas mis à jour. Et du coup, on voit d'ailleurs, c'est un débat plus général, c'est il y a les gens qui sont un peu adaptés à ce changement et il y a les gens qui restent derrière et il y a un éloignement en fait et une tension du coup dans la société.
Ouais.
Bon bref, on en reparlera peut-être après.
Et donc, juste pour expliquer ça, bah, par exemple, dans cette notion de mouvement, il faut que mon entreprise soit en mouvement. Et donc ça, j'illustre ça par deux exemples. C'est par exemple si tu as une structure organisationnelle qui est très pyramidale.
Ouais.
Genre, dans ton entreprise, il y a 20 niveaux entre le président et un des salariés. Il y a 20 niveaux hiérarchiques. Et ben tu sais que déplacer ça, ça va être très très compliqué parce que si la base veut bouger, et la base peut avoir envie de bouger, c'est qu'on appelle le bottom-up, bah, quelque part, il y a des chances que la tête, elle soit un peu en retard et que ça se casse la figure. Et inversement, si le patron, il veut insuffler un mouvement, bah, il va basculer vers l'avant, mais avant que ça arrive à la base, ça va être compliqué. Et donc, ce que tu observes dans ces boîtes, compatibles justement avec ce mouvement, c'est que souvent, elles ont des structures qui sont plates. Donc, c'est là, on comprend la raison, c'est que quelque part, l'information elle circule facilement et le mouvement bah, c'est plus simple de faire bouger quelque chose qui est plutôt plat que quelque chose qui est
ce que j'ai lu alors je sais plus où, désolé, j'ai pas la référence, mais c'est effectivement ça, les hiérarchies elles ont été construites pour dire ça y est, on a trouvé notre problème et on a une solution qu'on va pouvoir aller délivrer et industrialiser et envoyer à l'échelle. Et du coup, la hiérarchie était super pour ça, parce que on avait les process qu'on avait définis, et vogue la galère, et hop, on domine notre marché, et puis dans 20 ans, on réfléchira. Ce que tu dis, c'est que bah, c'est pas dans 20 ans, c'est dans 6 mois que tu te fais court-circuiter. Donc, ces approches de passage à l'échelle, et on construit une grosse pyramide, c'est fini, et il vaut mieux plutôt être capacité à changer, en gros, tous les 6 mois.
Voilà. Et un autre pendant, t'as parlé process. Plus une entreprise est processisée, moins elle peut bouger. Parce qu'un process, c'est quelque chose qui, c'est une manière de fonctionner. On s'est mis d'accord sur cette manière. Il y a plein de gens qui se sont mis d'accord sur cette manière de fonctionner. Et du coup, quelqu'un qui veut bouger quelque part, il va devoir changer les process. Changer les process, c'est de dire, ben, on va devoir réaligner tout le monde. Et donc, tu peux essayer de le faire. On sait que se bouger un process, enfin, toute personne qui a déjà essayé de le faire, sait que c'est compliqué parce que on a trouvé un accord. Et puis derrière, ben, le bouger, il faut que tout le monde se remette autour de la table, se remette d'accord. Et puis, il y a des tensions politiques d'entreprise, etc. Et donc, bah de ce fait, plus une entreprise est processisée, et moins elle peut bouger.
Du coup, ok.
Et ben voilà, enfin, il faut l'avoir en tête.
Du coup, tu fais quoi? Tu prends.
Et ben c'est là, on arrive sur des modèles organisationnels un petit peu différents.
Ouais.
Et typiquement, un des mantras, une des valeurs de, je sais pas si c'est une valeur, mais un mantra de Netflix, c'est liberté, responsabilité. Donc je retire le process et je m'appuie sur les individus. Et au lieu du process, et donc je leur dis tu es libre et responsable. Donc typiquement un des exemples que cite le patron Netflix, c'est un jour il dit ben moi il y a je retire la notion de process sur les notes de frais. Et quand dire qu'il y a plus de... Pardon,
je dis ça serait bien.
Non mais c'est pas ça.
Non, parce que bon,
mais c'est le cas chez Netflix. Cas chez Netflix. Et pourquoi il dit ben en fait, quand tu dépenses de l'argent, tu dois le faire dans l'intérêt de l'entreprise. Quand il dit ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de demander l'autorisation pour dépenser. Par contre, tu dois être capable de le justifier. Et c'est là la notion de liberté et responsabilité. Donc, ça nécessite aussi d'avoir des gens qui sont bien dans ce mindset-là.
Ouais.
Et typiquement, ben, est-ce qu'à un moment donné, toi, par exemple, tu n'as pas le droit de louer une voiture ou il te faut un coup de tampon pour louer une voiture. Tu dois te déplacer, il y a grève des trains.
Demain.
Voilà,
demain il y a
grève. Et donc c'est... du coup, ben est-ce que je m'autorise de prendre une voiture et je fais une note de frais sachant que j'ai pas eu tous les coups de tampon et que voilà. Et ben si t'es dans un process liberté responsabilité, ben ce rendez-vous il est très important à laquelle tu dois aller. Et ben tu voilà, et tu dis que en y allant, je vais créer plus de valeur que je vais dépenser. Donc je m'autorise à le faire.
D'accord.
Donc ça. Donc
ça c'est dans le mouvement encore.
Ça c'est la notion de mouvement. Donc le fait de retirer du process, de pas trop processiser, bah, ça te permet de te déplacer, de bouger, en fait.
Ouais.
Après, il y a la notion de vitesse, c'est le fait de dire, c'est quand on doit prendre des décisions, il faut prendre des décisions rapides. C'est-à-dire qu'on va pas dire, on a un problème et au bout d'un certain temps, on va faire plein de choix et au bout d'un certain temps, l'idée, c'est qu'il faut être capable de trancher assez vite. Et donc, pour trancher assez vite, ben, à nouveau, si tu as une structure hiérarchique et que tu dois être en permanence obligé de demander l'autorisation, bah, ton process de décision, il va être très long, parce que faut que ça monte la structure hiérarchique et ça redescende. Et donc, la notion de rapidité dans la décision, elle est aussi liée au côté de décentralisation, qui est owner de la décision. Et donc, plus le owner, c'est celui qui réalise, bah, quelque part, bah, plus tu vas être rapide. Et ben, voilà, et ben, donc, du coup, t'es capable de, cette notion de rapidité, elle vient bien là, en fait. Après, un des autres exemples, c'est, et on voit tout ce que
je dis. Attends, je suis challengé là-dessus.
Ouais.
Une longue conversation.
Ouais, c'est ça.
Une longue conversation qu'on a avec Antonio, on peut carrément changer, mais Il disait indépendance, c'est top, t'es libre, t'es autonome, etc. Mais tu transformes pas le monde quand même. Tu vois, tu sens que t'as une limite dans ta transformation. Donc si dans ta boîte, en gros, t'as liberté, autonomie, tu vois, des mini startups indépendants, comment tu fais pour quand même pouvoir changer le monde au sens où, je sais pas si j'ai envie de dire puissance de feu, mais t'as une capacité à aligner des choses pour faire une
différence. Exactement. Et donc, il faut pas confondre autonomie et enfin, il y a, c'est important
d'être. Et anarchie.
Non, et alignement. C'est-à-dire que c'est important, à un moment donné, que tout le monde sache dans quelle direction on va.
Ouais.
Ça, c'est très important. Mais ouais, tu peux être autonome. C'est-à-dire que le fait de dire on va dans cette direction et tout le monde est clair sur on va dans cette direction, bah, chacun va être libre quelque part d'atteindre cet objectif qui est très clair par le chemin qui lui semble le plus pertinent pour y accéder. Et ce qui est différent de dire, bah, je vais où je veux.
Ouais.
Je suis autonome, je vais où je veux. C'est pas ça qu'on dit. On dit, on va aller dans cette direction-là. Et donc, ok. Et donc, maintenant, vous êtes autonome pour y aller. Donc ouais, là, tu sens tout de suite un changement d'efficacité.
Ouais.
Moi, je découvre un nouveau monde, là, puisque je suis chez Microsoft.
Très, très bien.
Et très, très bien, Microsoft Super West. Et...
et voir, c'est quoi
Oups.
Ah, c'est un Mac.
Et c'est rigolo, parce que c'est tout à fait ça. Enfin, tous les trois mois, il y a le message de Satya, tu vois. Et il est là, et il dit, il vaut 350 000 l'employé, maintenant, tout le monde va par là. Après, vous y allez comme vous voulez, mais de toute façon, c'est par là. Et je suis assez bluffé de voir ça, quoi. La boîte est énorme, et t'as ce gars qui, tous les trois mois, fait des trucs internes en disant, bon, bah, maintenant, on va tous par là.
Ouais.
Et quand tu vois Bill Gates, Ballmer et Satya, tu vois bien que, entre Ballmer et Satya, la boîte a totalement changé, parce qu'il y a un mec qui a dit, on va par là, maintenant, les gars.
Ouais. C'est intéressant parce qu'en fait, là, t'as les boîtes qui arrivent pas à expliquer là où ils veulent aller. Donc là, pour le coup, c'est vraiment l'anarchie avec des micro-royaumes, en fait. Et en gros, bon, bah, ça fait de l'argent. En fait, ton métier, c'est fait de l'argent. Et puis, voilà. Donc, celles-là, elles ont pas la vision dont parle Didier. Ensuite, il y a l'approche où effectivement le leadership a réussi à dire bah ok, on sait ce qu'on veut parce que c'est pas simple. Puis c'est beaucoup de d'inconnus et du coup ils définissent ça et on sait le propager jusque le plus bas possible. Mais ça veut pas quand même dire que les 350 000 employés ils prennent ça genre ah ok. Et j'y vais, c'est peut-être genre, ouais, non, mais ok, non,
surtout
mais c'est
ça qui a dit, mais bon. Qui sont là depuis 40 ans, voilà, qui ont leur royaume, bien sûr.
Et c'est ça, c'est un gros challenge dans les sociétés. Moi, je sais que c'est Radat, justement, on a fait cette transformation d'aller expliquer, mais non, mais c'est quoi la stratégie, c'est pourquoi, et voilà votre framework pour vous aider à prendre des décisions qui vont être difficiles parce qu'on est dans ce monde où on se transforme, on va se transformer de plus en plus rapidement. Et après, on en revient à ça, mais c'est pas donné à tout le monde d'être capable d'entendre ça et d'accepter ce changement-là au niveau individuel.
Et le mouvement, comme tu dis, on n'est peut-être pas tous câblés aussi à être constamment en déséquilibre.
Ouais, il faut faire attention. Moi, je pense que le numérique, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, et je dis pas que c'est peut-être si on avait construit le monde idéal dans lequel tout est agréable et on prend du bon temps, peut-être qu'il faudrait pas aller vers le numérique.
Ouais.
Voilà, enfin, là, pour l'instant, c'est que si quelque part tu veux économiquement survivre, bah, t'as ce truc qui arrive et là, comment tu fais pour t'adapter? Mais c'est pas parce que tu t'adaptes que c'est agréable, quoi. C'est comme, pour moi, c'est un peu, je pense qu'on n'a pas trop le choix, mais je dis pas que c'est agréable. Enfin, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est comme tu dis, bah, moi, je veux être en bonne forme physique. Parce que je pense que c'est bien pour moi, mais en même temps, le truc naturel, c'est ce que t'as plutôt envie de faire, c'est d'être dans ton canapé, de boire des sodas, de regarder la télé. Enfin, c'est un peu ça qui est naturellement, on a plutôt envie de se relâcher. Et le fait de dire je suis en bonne forme physique, et ben c'est que le matin tu te lèves, tu vas courir, voilà. Enfin, et c'est pas très agréable, mais c'est parce que tu dis ben oui, c'est important pour moi. Donc c'est là où il faut faire attention. Je dis pas que c'est agréable, que c'est confortable,
ouais,
mais je pense que c'est nécessaire.
Ok, donc vitesse.
Donc vitesse, et on a dit c'est décision rapide.
Heureusement qu'on a fait le plan parce que on est obligé d'en revenir là.
Objectif production, c'est-à-dire, je dis souvent, ça sert à rien de faire du beau code si par exemple pas en prod. Et donc voilà. Et donc c'est aussi dans le mindset, c'est très important, c'est de dire à un moment donné quand on produit quelque chose, ça doit partir en prod. Et donc ça a plein de conséquences sur plein de sujets. Toi, par exemple, le POC, ça part pas en prod. Est-ce qu'une entreprise doit faire des POC? C'est une question. En tout cas, on sait c'est que ça part pas en prod. Donc, est-ce que dans son mindset, le fait de faire des POC, est-ce que c'est bien ou pas bien? Est-ce qu'elle doit pas?
J'ai connu des boîtes qui étaient visionnaires, hein, les POC qui partaient en prod.
Mais c'est pas des POC, c'était justement pas des POC.
C'est plus des POC. Bah, c'était des POC, et puis après on a dit bon, maintenant, mais c'est enfin, super, clac, allez hop.
Mais
et
c'était,
en fait, derrière,
c'était une autre époque.
Pédalait, c'est là.
C'était
ouais, ouais, enfin. Ouais, je sais pas si c'était vraiment t'as... d'époque, parce que t'as des gens, par exemple, dans le domaine du machine learning, tu peux faire des POC et tu sais que ça ne partira, ça peut pas partir en prod, parce que de toute façon, c'est non industrialisable. C'est-à-dire que, il y a aussi ce côté-là, c'est, ouais, un autre exemple, c'est de dire, par rapport à ce côté mise en production, les gens, ils disent, ouais, je dis, ça sert à rien de dire, j'attends que mon code soit de bonne qualité pour qu'il parte en prod. Pour moi, c'est une réponse à un problème. C'est-à-dire que le monde, il ne se pose pas la question de la qualité des articles qui sont produits par ces journalistes. C'est pas une question de base. Et pourtant, tous les jours, le journaliste sort. Et qu'est-ce que c'est qu'un bon journaliste? C'est un journaliste qui sort son papier en temps et en heure. Mais le fait que ce soit bien rédigé, qu'il n'y ait pas de faute, etc., c'est quelque chose qui arrive en amont. C'est-à-dire que j'ai choisi le journaliste de manière à ce qu'il sache bien rédiger, que ce soit clair, etc. Donc j'ai un bon journaliste du point de vue de ses hard skills, et en plus ce qui fait qu'il est vraiment bon, c'est que ben quand on dit c'est la clôture, il a livré son papier. S'il le livre 3 minutes plus tard, ça sert à rien. Et donc je pense qu'aussi, par exemple, si on parle de l'écosystème développeur, le recrutement, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'il faut recruter des gens, le fait de dire ben de base les gens que je recrute, ils produisent du bon code, et c'est quelque chose qui est en entrée du système. Et après, par rapport aux contraintes que je leur mets, par exemple, tu dois livrer, on ferme à 22h ou on ferme à 6h, ben t'as un peu plus de temps peut-être. Et donc, peut-être que ton code, il va être d'un peu meilleure qualité, tu auras peut-être un peu plus d'été, etc. Mais on part du principe que quoi qu'il arrive par rapport aux contraintes qu'on t'a mis à l'extérieur, tu dois tenir une échéance et que tu as fait le mieux par rapport à cette échéance. Et donc, c'est aussi pour ça que le côté objectif production, ben, c'est important, et ça amène aussi la notion de confiance. C'est-à-dire que quelque part, tu dois avoir confiance dans l'écosystème dans lequel tu vis, tu dois avoir confiance dans tes développeurs et dans ce qu'ils produisent, et tu dis, ben, j'ai confiance en eux. Et donc, cette côté de vitesse, il y a aussi cette notion de confiance, qui arrive, c'est, je suis capable d'être rapide parce que j'ai confiance.
Alors.
Non, je réfléchissais à voix haute et je me disais, est-ce que ce darwinisme-là, il est pas, hyper élitiste, c'est-à-dire qu'on demande aux gens d'être en mouvement, même si c'est désagréable, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mal le vivre, d'autres qui vont mieux le vivre, tu vois, est-ce que le darwinisme, en fait, parce que, souvenez-vous, des années 60, on parlait de darwinisme social, donc là, c'était un peu trash, mais est-ce que ce darwinisme numérique, ce darwinisme technique, est-ce que ça va pas laisser sur le carreau des tas de gens? Parce que là, on commence à dire, il faut être bon, il faut être en mouvement, il faut...
Je dis pas que c'est le modèle de société que je souhaite. C'est ça qui est important.
Oui.
C'est-à-dire, c'est que je le constate. Après, quelque part, ben, tu vois que les boîtes qui sont les tech companies, si tu repasses ce qui se passe dans la Silicon Valley, le processus de recrutement, il est hard. C'est un fait, en fait. C'est un fait. Et donc, elles ont réussi. Et donc, moi, je suis plutôt en train de dire, bah, ok, analysons quelles sont les conditions du succès. Et puis après, bah, derrière, si on veut être pertinent dans ce marché-là, bah, quelque part, soit on essaye d'inventer un nouveau modèle, soit d'abord, on essaye de copier ce qui existe. Et donc, je suis d'accord avec toi que ça pose beaucoup de questions par ailleurs. Et donc, ça pose d'autres questions derrière. Bah, il faut former les gens, il faut les aider à continuer à rester... Donc on a tout l'axe personne qu'on peut aborder derrière, mais ça amène aussi un vrai sujet qui est par ailleurs, c'est-à-dire que donc est-ce qu'on veut aller dans le numérique, c'est un choix. Apparemment, on veut y aller, ok. Ben quelque part, il faut te mettre dans des conditions de succès, voilà. Et après, ben ce truc-là, ça va amener des conséquences. Et ben derrière, ben comment tu fais pour que socialement, et c'est un autre axe, comment est-ce que socialement je fais pour que la machine continue à fonctionner et que il n'y ait pas de gens sur les ronds-points qui soient à côté du système. Et c'est un vrai problème. Mais ça sert à rien de se dire, il n'existe pas.
Oui,
il existe, ce problème. Et donc, il va falloir réfléchir à la manière dont, ben, tout ça fonctionne d'une manière sociale. Et c'est un des vrais sujets qu'on a à traiter, mais qui est, ben, il y a des élections, il y a plein de manières de régler ce problème-là. Je me suis toujours demandé.
On n'a pas forcément besoin non plus que tout le monde change. Il suffit qu'il y ait la masse critique, post-critique. Je sais pas, un jardinier n'a pas forcément besoin de faire sa révolution numérique et pourra continuer à faire des beaux jardins quand même.
Donc, oui, le jardinier
peut être aussi. Enfin, t'as pas besoin d'avoir 100% de la population qui est adaptée.
Bien sûr. Mais lorsque Didier parle de la musique, les oui, banques, etc., oui, ça commence à faire, là, ça commence à faire beaucoup.
Bien sûr. Ça.
T'as une idée d'ailleurs?
Pardon?
Bon, je pensais à un livre que j'ai commencé mais que j'ai jamais fini, mais qui est sur les. Je crois les 20%. En fait, je suis. Enfin, j'essaie de comprendre. justement ces gens derrière qui ils sont, enfin c'est depuis le gilet jaune etc. on en a avant, mais qui ils sont, pourquoi ils se sentent comme ça etc. Donc, il y a un bouquin qui est je parle un peu plus, c'est genre les 20% et on parle de gens voilà qui ont cette capacité à changer et qui ont cette confiance parce qu'ils ont grandi, on leur a construit cette confiance, et en miroir en fait j'essaie de comprendre du coup les 80%. Et du coup, je me demandais, les boîtes, il y a combien de boîtes qui ont besoin de changer, en fait? En fait, il y a combien de pourcentage de la population
que dans une
va devoir boîte, être dans juste, ce mode?
Ça
ce
peut
mode.
Être juste un petit pourcentage d'une boîte.
Bah, je sais pas, oui. Parce que je sais plus, c'est toi qui parles de bimodal à un moment et que c'est pas la solution. C'est autre chose.
Je sais plus ça. Mais en tout cas, c'est quelque part les structures pyramidales avec le middle management. C'est que c'est un problème.
C'est ceux qui souffrent le plus, en fait.
Mais en plus, du point de vue humain, c'est très dur d'être dans ces strates-là. On sait que, bah, quelque part, les structures plates, elles vont se tasser. Et donc, après, c'est... Moi, je me dis, bah, y aura sans doute... Toi, c'est difficile d'imaginer ce qui va se passer. Mais je pense que, bah, y a une espèce de résilience et il va y avoir d'autres choses qui vont arriver, des nouveaux services. Enfin, en tout cas, c'est mon espoir. Et je peux pas... Est-ce qu'on est capable de l'inventer? Je suis pas certain, mais je pense qu'il va se passer quelque chose qui fait que, ou sinon ça va faire collapse. Hein. Enfin, oui. Cette ère du numérique, peut-être qu'elle va, enfin, elle va s'arrêter parce que, ben, socialement, elle est inacceptable.
Moi, c'est ce qui m'attriste un petit peu, c'est que on voit le modèle américain et chinois, et c'est vrai que dans le numérique, l'Europe est pas là, et on n'arrive pas à montrer à la planète Terre que notre modèle social qui, enfin, moi j'ai grandi dedans, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Après, les Américains, ils ont leur et les Chinois. Enfin, donc, moi je trouve que mon modèle social est plutôt pas mal et j'aimerais qu'il continue à perdurer. Mais on n'a pas montré, tu vois, ma gamine, elle a 16 ans. Et là, il y a quelques semaines, elle me parlait des Batix. Donc, elle faisait un devoir sur les GAFAM et les Batix. La gamine, elle a 16 ans et elle sait ce que c'est que les Batix, quoi. Et donc, elle connaît des trucs en Chine. Et je lui dis, en Europe, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi les acronymes?
Bon, bah, c'est quoi les
Batix? Voilà, déjà, pas... les Batix, c'est les GAFA chinois, quoi, Alibaba, ah, machin. Ouais. Et donc, voilà, c'est se dire, tiens, flûte, on n'a pas montré au monde que notre modèle social et notre modèle numérique fonctionnait, et qu'on pouvait faire du numérique et avoir nos GAFA à nous et nos Batix à nous avec notre modèle social.
Donc juste, après...
Pas trop dans le mouvement en même temps, historiquement. Ouais, bref, vas-y, reprends ton fil.
Non, mais donc on a...
Pour confiance, ouais.
Voilà, donc mouvement, vitesse, donc pour avoir de la vitesse, pour avoir de la confiance. Donc
et comment tu... Ah oui, tiens, j'avais une question tactique. Donc tu dis, voilà, il faut de la vitesse, je te fais confiance, voilà, la deadline. Mais en fait, tes équipes, elles te disent, non, mais c'est pas possible, Didier, ça sera trois mois de plus, tu vois, peu importe. Donc à un moment, elle est où ta confiance, elle est où ton arrêt de... Tu vois.
C'est toi quelque part, s'il te dit c'est trois mois plus, mais si tu dis moi j'ai pas le temps, bah, peut-être que c'est une mauvaise idée. Enfin, ouais, ouais. Quelque part, toi c'est tout cet écosystème là qui se met en place. Et toi ça va même assez loin, c'est de dire donc à un moment donné je dis par exemple souvent les entreprises, alors ce que je veux dire c'est un sujet qui est compliqué, mais on rémunère souvent on a un pourcentage pour augmenter les gens. Cette année c'est 4% d'augmentation. Donc tu rémunères pour le talent. Rémunère au budget. Et ben, cette année, je m'autorise 3% d'augmentation, donc c'est pas sur le talent. De part, tu as une masse que tu dois étaler sur tout le monde. Et la question, c'est est-ce qu'on doit rémunérer au talent ou est-ce qu'on doit rémunérer au budget? Dans le système pénurique dans lequel on se trouve dans l'économie numérique du point de vue développeur, tu peux plus rémunérer au budget. Ça marche pas. Si tu rémunères au budget, tu vas perdre tes talents. Donc, tu es obligé de rémunérer au talent. Sinon, ça marchera pas, tu vas les perdre. Et donc, du coup, tu rémunères au talent. Mais après, derrière, est-ce que ton business model te permet de rémunérer les talents? Et donc, du coup, ben, il y a sans doute actuellement, dans le marché actuel, des entreprises qui ne vont pas pouvoir survivre. C'est pas parce qu'elles ont pas une bonne idée ou je sais pas quoi. C'est que simplement, ben, les talents sont trop chers pour que leur business model soit viable. Donc là, toi, il y a plein de tensions qui sont en train d'arriver en ce moment.
C'est vrai que la Silicon Valley, lorsqu'on voit là, tout ce turnover, là, ce tournis où, on voit tous nos potes qui vont de boîte en boîte, ça circule à une vitesse incroyable.
Resignation là aussi, justement causée par le Covid, où on voit qu'ils en profitent pour aller voir ailleurs, dans les meilleures conditions, etc. Qu'a eu plus ce lieu, je pense, là-bas qu'ici d'ailleurs. Non, tu trouves pas?
Maintenant,
ouais, ok. Peut-être.
Alors du coup, tu parlais de bon, est-ce que mon business model va permettre d'investir dans ces talents-là, enfin, est-ce qu'il y a une adéquation? Du coup, c'est une transition intéressante sur l'ambition, qui est ton point d'après.
Ouais. Donc souvent ces boîtes-là, c'est très grosse ambition. Dans ces boîtes, ce qu'on observe dans ces boîtes des peurs du numérique, et il y a cette espèce de constat qu'on voit, hein, c'est winner takes all. C'est-à-dire que sur un marché, en gros, il y a quelqu'un qui s'impose et qui prend une grosse part. C'est pas dire qu'il n'y a pas d'autres acteurs, mais ils doivent trouver leur niche ou ils prennent des micro-marchés autour de ce truc-là. Donc, quelque part, on peut dire le commerce en ligne, ben, derrière Amazon, c'est compliqué. Je dis pas qu'il y a pas, ça existe pas, mais ça reste compliqué.
Et après, ce qui se passe, c'est que c'est des nouveaux modèles qui sont inventés plutôt que d'aller combattre dans le marché existant. Il y a Shopify, modèle différent d'Amazon. Donc, ils ont leur modèle. Ou Google, voilà, dominant machin, Facebook arrive, bon, Google a fait, je sais pas combien d'expérimentations sur les réseaux sociaux, et ben, voilà.
Pourtant, ils ont mis de l'argent, tu vois, c'est pas qu'une question d'argent, parce qu'ils ont quand même beaucoup investi pour essayer de dire on va percer sur ce truc-là, ils ont pas réussi. YouTube s'est un peu imposé sur un segment, il y a un nouveau segment qui arrive pour tout ce qui est vidéo en ligne, là, enfin, le live.
Twitch.
Exactement, donc mais ils ont trouvé une niche à côté. Ils sont pas mis en frontal de YouTube, et peut-être qu'ils vont sortir à YouTube, mais voilà, ils se sont trouvés leur niche un petit peu à côté.
C'est marrant que ça soit hyper segmenté. Ouais. Du coup, très éphémère aussi, hein, parce que du coup, quand on se dit, quand le gars il se dit, je suis Snapchat, je suis le roi du monde, en fait, t'es le roi du monde, mais peut-être que dans 15 jours, t'existes plus. Non
ouais.
MySpace.
Tu télécharges plus tes MP3 sur Napster, quoi.
Les MP3, je sais plus ce que c'est. OK.
Donc scale, et puis après il y a cette notion d'efficacité. Donc quand je dis efficacité, c'est vrai que souvent dans ces boîtes-là, on cherche à automatiser au maximum. Et puis il y a ce côté
c'est pour l'ambition ça, parce qu'en fait quand tu réfléchis, si tu te dis moi mon objectif c'est 30 millions annuels et puis je suis bien comme ça, tu vas pas automatiser tous tes process le plus possible parce que le retour sur investissement a pas forcément du sens. Après, quand t'as une ambition, moi je vais être 30% du PIB des États-Unis, bon bah, tu vas automatiser pour aller travailler sur ce qui a le plus de valeur.
Et après, c'est aussi, la raison de l'automatisation, c'est amener de la fiabilité.
Ouais.
Donc ça amène de la confiance.
Valeurs,
ça amène de la confiance parce que le fait que ce soit automatique, ben quelque part ça t'amène de la confiance. Oui. Et donc quelque part ça c'est important sur cet axe-là, le côté automatisation. C'est aussi un autre axe, c'est quelque part comme tu vas devoir croître de manière très importante. Si ta croissance de chiffre d'affaires est liée à une croissance linéaire de tes personnes, ben, à un moment donné de toute façon tu auras un problème de talent. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir croître avec le nombre de talents, enfin de salariés, en fonction de ton chiffre d'affaires. Et donc si ton business il peut scaler à l'échelle de 1 milliard d'individus, bah je vais monter ma cible, comme c'est les GAFAM ou autres, ils disent bah nous de toute façon c'est 1 milliard de users, sinon c'est rien. Bah et que tu dois scaler ton nombre de salariés par rapport à cette pyramide, bah quelque part t'as un problème. Et donc on observe. Alors, je n'ai pas théorisé, mais tu as une espèce de relation logarithmique entre le nombre de personnes, le service que tu vas rendre à un certain nombre d'utilisateurs et le nombre de salariés. En gros, il faut que tu arrives, si c'est linéaire, ça marche pas. Et donc, quelque part, tu dis, ben, je vais essayer de faire croître ma population de salariés qui vendent le service de manière logarithmique par rapport au nombre de personnes que je sers.
Ouais, je sais pas si c'est logarithmique, c'est sous-linéaire.
Ouais, c'est ça, je dis logarithmique parce que tout le monde comprend ce que ça veut dire, mais en tout cas, si c'est linéaire, ce sera très compliqué. Ouais.
D'ailleurs, pour revenir un peu plus à la tech, le modèle du service reliability engineer, c'est ça, c'est de dire, bah, l'équipe, oui, elle va croître, mais elle va pas croître linéairement par rapport à la demande, parce que sinon, ça n'a pas de sens. D'où l'engineering d'automatisation.
Exactement. Donc, et tu le retrouves normalement à tout le niveau de ton entreprise. Parce qu'on parle souvent d'engineering, mais un peu, quelque part, partout, tu dois réfléchir à comment est-ce que je peux automatiser. Si tu es obligé de croître de manière linéaire, par rapport à, bah, c'est quelque part, il y a un problème. Mmh. En termes de people. Et donc, l'automatisation, c'est là pour, et donc on retrouve le problème social, hein. Mmh. C'est que derrière, ben, on a à nouveau un problème social, c'est qu'on a besoin de moins de personnes pour créer la même chose. C'est moins redistributif. Ouais.
Bon, après, il y a la vision positive qui dit, ben, du coup, on va pouvoir faire plus de choses.
Ouais, mais ce qui se passe, c'est que tu as quand même une centralisation des richesses.
Ouais.
C'est-à-dire que les richesses sont créées par un nombre de... En tout cas, du point de vue économique et capitalistique, tu as quand même des entités qui vont capter beaucoup de richesses sur peu de salariés. Et, ouais. Et comment est-ce qu'on fait pour redistribuer cette richesse qui a été accumulée sur peu de salariés pour que finalement elle permette à tout l'écosystème de vivre? C'est ouais. Ça le sujet, c'est comment je redistribue la richesse que j'ai réussi à créer.
Mais vous voyez, l'automobile, c'est donc l'automobile a un siècle, un peu plus, et on a vu toute cette automatisation. Enfin, moi, mon père, avant de se faire virer de chez Renault ou chez Citroën, je sais plus, il bossait à Boulogne-Billancourt, enfin à Boulogne-Billancourt, il y avait une usine qui faisait des bagnoles, quoi. Tu vois, avec des êtres humains qui faisaient des pièces. Mon père était fraiseur, tu vois, il faisait des pièces comme ça. Puis t'automatises tout, donc effectivement, tu permets à la population d'avoir, c'est un peu germinal, d'avoir une voiture pas chère. Et puis, comme tu dis, tu délocalises, tu bouges. Boulogne-Billancourt a perdu cette usine, tu vois, sur la fameuse île, machin. Donc, on en revient toujours à ce problème social, cet équilibre. Grâce à ça, on a des voitures pas chères. À cause de ça, on a perdu des villes. Grâce à ça, machin. Enfin.
Oui, c'est des évolutions d'équilibre. Je suis pas sûr que l'humain est hyper adapté au non-équilibre, en fait. Au point de vue de son...
Si on revient de son côté à Darwin, si non, mais... on est là 300 000 ans après, c'est parce qu'on a, oui. On a su un peu jongler quand même.
Et du point de vue social, c'est du point de vue de l'aspiration.
Dans le darwinisme, tu prends les humains, c'est ceux qui sont adaptés le plus. Ouais. Ils sont présents partout sur toute la planète, quelles que soient les conditions.
Froid, chaud, désert,
altitude, mer. Et là, bah, c'est
une belle espèce animale quand même.
Bien adaptable.
Ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui souffrent que la stabilité qu'ils croyaient avoir, elle, en fait, n'existe pas, ou n'existe plus.
N'existe plus. C'est-à-dire que, et je pense que c'est un phénomène récent. Moi, je prends la vie de mes grands-parents ou la vie de mes arrière-grands-parents, c'était la même. Je pense que la vie de mes parents était différente de celle de mes grands-parents, déjà. Et ma vie est complètement différente de celle de mes parents, et bon, j'imagine que la vie de mes enfants sera encore complètement différente. Mais je pense qu'il y a eu ce moment où, en tout cas, moi qui viens plutôt d'un milieu rural, enfin, qui viens d'un milieu rural, pas plutôt, ben, c'est vrai que je vois l'histoire de ma généalogie de jurassiens, ben, je prends mes grands-parents, ils avaient la même vie que mes arrière-grands-parents. Et je pense que c'était la même vie que mes arrière-grands-parents, et on peut remonter comme ça assez loin, jusqu'à peut-être, il y a eu le moment de la Révolution, il y a eu ce petit moment, et tout châtain, donc, il y a eu un petit changement, on va dire. Là, il y a une espèce de non-linéarité qui s'est passée, mais ça bougeait peu, en fait. Et après, bah, il y a eu ce moment où bah, les gens ont quitté les villages, sont partis plutôt en mode urbanisé, pour avec un objectif, c'était améliorer les conditions de vie. Voilà, enfin, c'est pour voir aussi la vie à la campagne à ce moment-là, c'est pas très agréable. Enfin, la fontaine, elle servait à aller chercher de l'eau, quoi. Enfin, tu voulais de l'eau, il n'y avait pas l'eau courante. Enfin, on en rigole maintenant, mais voilà. Et donc tout ce mouvement-là, il y a eu. Et là, on est vraiment dans le mouvement, et peut-être qu'à un moment donné, ça va se restabiliser. Mais je vois pas encore ce moment de restabilisation.
Mais ce que tu disais, c'est que ce darwinisme numérique, ce mouvement, il existe, ça c'est un constat. Après, on n'a pas dit que c'était agréable pour tout le monde.
Et que c'était souhaitable.
Et que c'était souhaitable.
Oui, après, t'as quand même monté une, cofondé une boîte pour aider ce mouvement, tu vois. Donc,
Nous tous, on y contribue.
Oui.
Ouais. Nous tous, on y contribue. C'est, enfin, le darwinisme numérique, il a démarré avec l'open source. L'open source, c'est un outil qui a permis, avant, il y avait plein de gens qui développaient des frameworks, enfin, j'en faisais partie, hein. Chaque entreprise créait son propre framework, l'équivalent d'un Spring ou d'un Hibernate, et il était codé une fois partout. Et à un moment donné, il y a des gens qui ont dit, bah, attendez, nous, on va le faire une fois et tout le monde le récupère. Et ben, on est bien dans Winner Takes All.
Ouais.
Et là, ben, t'as tous les architectes qui faisaient, les experts qui faisaient ça partout, ben, qui m'ont dit.
Ah, c'est plus le commun qu'un winner takes all. Bon. Après, ben, tout le monde peut venir participer et on va tous travailler sur la même base commune.
Oui, mais c'est le tout le monde, tu passes de chaque, non, il y avait beaucoup d'équipes dans beaucoup d'entreprises.
Pour que les gens fassent des trous et les rebouchent, ok. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un winner takes all, il y a Google et il y a je sais pas qui a zéro marché. Là, c'est genre, c'est disponible à qui on l'utilise.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est quand je dis winner takes all, c'est au sens, on l'a vu même dans l'open source, il n'y avait pas de place pour beaucoup de projets open source sur le même vertical.
Oui, oui,
c'est ça que je veux dire simplement. C'est-à-dire que Spring s'est imposé sur son oui. vertical et il y avait d'autres candidats. Il y avait HiveMind. À l'époque, je sais pas si vous avez rappelé, oui, il y avait Tapestry, je pense. Mmh. Il y avait d'autres acteurs. Et puis finalement, il y en a un qui s'est imposé et qui a pris le marché. Et donc, et au final, avant, enfin, moi qui ai connu ça avant, ben, dans chaque entreprise, il y avait des gens qui codaient leur Spring.
Leur propre Spring. Ah, oui.
Et là, il y avait des milliers qui étaient codés.
Oui, c'est comme tu disais, le winner.
Donc, on est bien, tous, enfin, nous sommes tous acteurs de ce truc-là.
Alors, efficacité. Efficacité.
Comment qu'on fait?
Non, on a parlé d'automatisation.
Ouais, donc il y a ce côté aussi petites équipes. Donc c'est vrai que pour être efficace, on voit souvent, on a parlé de la pizza team. Ben, voilà, il y a ce côté un petit peu, voilà. Enfin, c'est vrai que souvent, ces structures qui fonctionnent, elles vont pas dire, ben on va démarrer un projet, on va prendre 100 bonhommes d'un seul coup, on va scaler. C'était une manière d'imaginer. Là, on est plutôt en train de se dire, ben on va créer des petites équipes qui vont essayer de fixer des petits problèmes.
Équipe raclette, tu vois.
Ouais, raclette.
Raclette, oui, pizza.
Le raclette pour gérer la taille de ton équipe.
Voilà, c'est ça. On va le faire à la française.
Équipe raclette.
Ah, moi, j'aime bien. Merci, Emmanuel. Ça me plaît beaucoup.
J'adhère. Équipe raclette.
On change. Donc, à partir de maintenant, on dit tous équipe raclette. Donc, voilà, plutôt petites équipes. Après, il y a le côté coopération versus possession. Et donc, ça, c'est un des mouvements, on dit... propriété collective du code, par exemple, c'est-à-dire que ton code ne t'appartient pas, il appartient à l'équipe, mais c'est vrai aussi si tu le prends au niveau organisationnel. Avant, on s'échangeait des documents Word. Je sais pas si vous avez connu cette époque, mais quelqu'un rédigeait un document et il l'envoyait, et puis on avait la version 1, version 2, version 3, version 4, etc. Pas très efficace. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, on met le document au milieu, il appartient plus à personne, et tout le monde vient coopérer. Donc c'est un changement de paradigme, et c'est vrai que, quelque part, et toutes ces entreprises, il y a ce shift qui se passe, en fait. C'est-à-dire que tu possèdes moins les choses et t'es plutôt en mode coopération. C'est pareil, par exemple, pour la donnée dans une entreprise historiquement. Et c'était une des raisons pour lesquelles beaucoup de projets de type data warehouse échouaient historiquement. C'est que les gens, ils se sentaient honneur de la donnée. Ils n'avaient pas envie de la partager avec les autres parce qu'ils avaient l'impression de perdre quelque chose.
Il y a encore, quand même, cette ownership.
En tout cas, si tu regardes dans ces modèles de fonctionnement, tu passes plus dans la. Si tu veux réussir, si tu regardes ce qui se passe, t'es plutôt justement dans la coopération que dans la possession.
Ouais.
C'est juste ce que je dis. C'est on est là pour. C'est quoi les facteurs de succès?
Ouais. Okay.
Et puis après, il y a cette notion et qui pour moi est aussi très importante. C'est sur le modèle organisationnel en termes d'efficacité.
Nous voilà à la fin de cette partie 2. Dans la partie 3, on discutera un petit peu de la relation entre le côté métier et le côté tech, comment elles sont un peu inséparables dans ces sociétés-là, et puis la façon de penser, quelles sont les valeurs, quelle est la culture, comment l'approche des gens est faite, même si on a commencé à parler un petit peu de la notion d'organisation. Voilà. thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.